Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Bon nombre de bibliothèques sont peu fréquentées par les jeunes, d'après nos sources. Certains y vont seulement pour recueillir des informations en vue de réaliser leurs travaux pratiques ou travaux des fins des cycles ou mémoires. Alors sans contrainte, il est rare de voir les jeunes fréquenter régulièrement ces lieux de savoir. Alors que faut-il faire pour encourager à fréquenter les bibliothèques? Quels sont les bénéfices qu'ils peuvent en tirer? Bien, on va aborder, on aura des réponses à toutes ces questions avec notre invité, le professeur Georges Moulumba Kalonga, directeur de la Bibliothèque Nationale. Professeur, encore une fois, bonjour.
Bonjour, jeudi.
Alors, pourquoi la première question est de savoir, on a appris que bon nombre des jeunes ne fréquentent pas assez les bibliothèques. Pourquoi?
Bon, avant de répondre à votre première préoccupation, permettez-moi d'abord de remercier Radio Okapi pour cette opportunité qui m'est offerte afin que je puisse m'adresser à nos fidèles auditeurs. Également, j'en profite pour présenter, souhaiter bon anniversaire à Radio Okapi, ne serait-ce qu'il n'y a pas longtemps que
merci pour l'offre. Oui, bien sûr.
Alors, maintenant, pour revenir au sujet du jour, vous me demandez pourquoi beaucoup de jeunes ne fréquentent pas la bibliothèque, n'est-ce pas?
Oui.
D'accord. Disons que la lecture, en fait, c'est le sujet qui nous réunit ce jour.
Mm-hmm.
La lecture, n'est-ce pas, n'est pas une chose facile. Pour lire, il faut d'abord avoir l'intention de lire. Et pour avoir l'intention de lire, il faut aller chercher un livre. Il faut vous déplacer pour aller à la bibliothèque. Vous arrivez à la bibliothèque, vous remplissez un certain nombre de conditions, un formulaire, on vous donne le livre, et puis vous allez vous mettre à le lire. Alors, pourquoi? Parce que, à mon humble avis, il y a la présence, il y a d'abord le manque d'habitude, n'est-ce pas?
Oui.
C'est une culture, n'est-ce pas?
Manque de culture de la lecture. Oui.
Et surtout maintenant, avec les nouvelles technologies d'information et de communication, il est plus facile, n'est-ce pas, de zapper la télé pour suivre une émission plutôt que de faire un effort, aller vers la bibliothèque chercher un livre pour pouvoir le lire. Et alors, il y a cet intérêt. Il faut que les gens puissent avoir un intérêt pour lire. Pourquoi dois-je lire? Bon, vous l'avez annoncé tout à l'heure en votre introduction, en disant que la plupart, n'est-ce pas, viennent lire parce qu'ils ont un travail. Ce que j'appelle lecture contrainte. Mm-hmm. Mais lecture plaisir, lecture formation, c'est difficile. Donc, il y a nos habitudes familiales, n'est-ce pas, à la maison. Est-ce qu'à la maison, nous avons un coin réservé au livre? Est-ce que nous avons un coin réservé à la lecture? Est-ce que les parents incitent leurs enfants à lire? Voilà, toutes de questions que l'on se pose.
Mmh.
Et alors, souvent, on dit d'ailleurs que les gens ne lisent pas beaucoup. Je ne parle pas seulement des jeunes.
Même les adultes. N'ont pas le temps pour lire.
Oui, d'accord. On dit que ventre à femelle n'a point d'oreille, il y a d'abord l'indépendance du ventre.
Il faut d'abord bien manger avant de lire.
Il faut bien manger. Prima manducare et de philosophare. Il faut manger d'abord après philosopher, comme on dit en latin.
Oui.
Alors, il y a un temps, on disait que les gens ne lisaient pas beaucoup. Que les gens ne lisent pas. Mais moi, je crois que les gens lisent quand même. Il suffit de jeter
peut-être qu'ils lisent les journaux chaque jour, chaque matin.
Principalement, regardez ce qu'on appelle les parlementaires debout, n'est-ce pas?
Oui.
Quand il y a des sujets d'actualité, des sujets politiques, vous voyez tout le monde, n'est-ce pas, autour de n'importe quoi, on montre les journaux et les gens sont là en train de lire.
Mais ils n'achètent pas pour lire.
Ils n'achètent pas. Bon, ils n'achètent pas. Pour acheter, il faut avoir de l'argent, n'est-ce pas? Il faut un pouvoir d'achat. Et surtout au mois de quand il y a les examens d'État là, n'est-ce pas? Et quand il y a les résultats en France à proclamer, il y en a qui se font de l'argent avec les journaux, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr.
Ils sont très loin. Alors regardez même dans quel journal on lit. Mais hors la lecture, comme j'ai l'habitude de dire, n'est-ce pas, on étudie pour la vie et non pas pour l'école. non scolae, cette vida discrimus. Donc, nous étudions non pour l'école, mais pour la vie. Donc, il faut être motivé. Il faut avoir cette habitude de lire, de se former en permanence. OK? Donc, je disais tout à l'heure avec les nouveaux technologies de formation de communication, et surtout avec le Facebook et tout.
Oui, avec l'arrivée des réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, mais c'est grave ça. Et les SMS, justement, quelqu'un qui lit, il se forme. Dans le livre, vous trouvez des mots difficiles. Dans le livre, vous trouvez des expressions neuves. Dans le livre, vous pouvez donc dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, etc. Comment s'écrit-il? Mais regardez aujourd'hui avec les SMS, le langage des SMS, mais ça détruit complètement le français.
L'orthographe n'est plus respectée.
L'orthographe, mais c'est grave. C'est très, très grave. N'est-ce pas?
Là, c'est une autre. Il semble que les gens recourent beaucoup plus aux abréviations parce qu'il faut vite, vite à écrire.
Il n'y a pas d'abréviation. Ils écrivent mal le mot. N'est-ce pas? L'abréviation, ok, c'est autorisé, mais c'est la graphie comme telle. Il suffit de lire un peu quelques notes de cours. Il faut s'en rendre compte. Je ne vais pas entrer dans les détails. N'est-ce pas? Donc, il y a lecture contrainte, lecture plaisir, loisir, etc., formation permanente. Les gens ne font pas.
Alors, professeur, on retient que si bon nombre de jeunes ou des adultes ne fréquentent pas les bibliothèques, c'est parce qu'ils n'ont pas d'abord manque d'habitude, de lecture, manque de culture. Et vous avez parlé aussi, vous avez touché la famille. Oui. Lorsque dans la famille, les parents n'ont pas un coin réservé à la lecture, déjà, les enfants n'auront pas vont pas développer cette culture.
Exactement. Donc, le premier élément, n'est-ce pas, le premier formateur, c'est la famille. Il faut que dans la famille, le père, la mère aient l'habitude de demander à leurs enfants d'acheter des livres pour leurs enfants, de demander à leurs enfants d'aller fréquenter les bibliothèques. Bien entendu, tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, etc. Donc, si les gens peuvent prendre l'habitude d'aller à la bibliothèque, d'aller chercher des recherches pour trouver tel sujet qui a été demandé, à ce moment-là, ça va aller. On l'a vu d'ailleurs au moment de la... quand on avait organisé la conférence nationale souveraine, dans beaucoup de services, n'est-ce pas, le service de documentation, souvent, c'est un service qui est négligé. Il est mal logé, mal loti, très souvent dans un coin...
Dans les ministères.
Dans le ministère, dans l'administration.
L'administration publique.
Dans l'administration publique, etc. Donc, quand quelqu'un, n'est-ce pas, quand on veut punir quelqu'un, on vous dit, mais écoutez, mais vous pouvez l'envoyer même à la bibliothèque. Vous voyez ce que ça veut dire, gagnant?
C'est une punition.
C'est une punition. Mmh. Alors qu'en fait, un bibliothécaire, un archiviste, un documentariste, c'est un monsieur, n'est-ce pas, qui mérite tout notre respect.
Professeur, écoutez, quelqu'un a dit ceci, si vous voulez cacher quelque chose à un noir...
Il faut le cacher
dans le livre, il ne le dira jamais. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation?
Bon, je suis partiellement d'accord, pas tout à fait d'accord avec vous. Bon, quand il y a quelque part, il y a des choses à voler, c'est rare qu'on vole un livre, n'est-ce pas? Sauf quand on en connaît l'utilité, c'est parmi le milieu étudiantin, etc. Mais d'une manière générale, cette chose-là, ça n'intéresse pas grand monde. Ça n'intéresse pas grand monde. Parce qu'on croit que ce n'est pas utile. Or, celui qui lit, il se cultive.
D'accord, on va y revenir dans quelques instants. Comment encourager les jeunes à fréquenter les bibliothèques? Nous recevons aujourd'hui le professeur Georges Mulumba Kalunga, directeur de la Bibliothèque nationale. Vous avez des questions et préoccupations, n'attendez pas les dernières minutes. Composez le 081-890-63-94. Appelez-nous et nous allons vous enregistrer et vous rappeler plus tard pour participer.
Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droit du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaire, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Comment encourager les jeunes à fréquenter les bibliothèques? Doudou Kadima, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
On vous écoute, Doudou.
Bon, j'aimerais d'abord contredire l'invité parce qu'il parle beaucoup, il se concentre beaucoup sur les jeunes, mais les adultes aussi. Il faut parler aussi pour les adultes. Parce que si vous allez même dans des assemblées provinciaux, vous trouverez un député qui ne connaît même pas lire, qui ne connaît même pas écrire son nom. Bon, il faut parler aussi des adultes.
Vous êtes sûr de ça?
La deuxième question.
Doudou, vous êtes sûr de ce que vous dites à un député qui ne sait pas écrire son nom?
Ici, en Mbujimaï, il y a des députés qui ne connaissent même pas lire, il ne connaît même pas écrire son nom. Il est là, je ne sais pas si par connaissance ou je ne sais pas, il se trouve dans l'Assemblée, bon, je ne sais pas si par connaissance ou quoi.
D'accord, alors, quelle est la question?
Oui, c'est vraiment regrettable, M. Joseph Daniel.
D'accord, alors, quelle est votre question, Toudou?
Ok, mais là, ma question est de savoir, bon, quand on lit beaucoup, bon, parce que je connais une personne ici en Bougemaï qui lisait beaucoup. Maintenant, il a...
Oui. Doudou, vous êtes toujours en ligne. Voilà, on l'a perdu. Doudou, rappelle-nous parce qu'on n'a pas eu ta question. On a juste suivi cette affirmation. Balthazar nous appelle des Kindou. Bonjour, Balthazar.
Oui, bonjour, Jody.
On vous écoute, Balthazar.
Oui. Chez nous, nous sommes vite à un problème de bibliothèque, surtout nous qui habitons la commune d'Alongoli, parce que notre province compte trois communes. La commune d'Alongoli se trouve à la rive droite, mais il n'y a aucune bibliothèque pour les services des jeunes, surtout. Pour être en contact avec une bibliothèque, il faut être à la rive gauche ou bien traverser, cela coûte un peu de moyens.
Oui.
Cela ne nous encourage surtout pas à fréquenter ces bibliothèques qui sont un peu moins nombreux ici chez nous à Kindou, surtout ça.
D'accord. Alors, professeur, si les gens ne lisent pas, il y a aussi une autre raison. Les bibliothèques, il n'y a pas assez de bibliothèques à travers le pays.
Exact. Je remercie l'auditeur de Kindou qui vient de parler de l'absence de bibliothèque dans sa province. Et voilà, cher auditeur, le ministère de la Culture et des Arts, depuis 2006, monsieur le ministre de l'époque avait signé un arrêté créant un certain nombre de bibliothèques dans toutes les provinces, au total 33. Et la province de Maniema est du nombre. Nous avons pris de contact avec quelques opérateurs politiques du coin pour leur dire que la bibliothèque est déjà créée juridiquement, donc sur papier. Maintenant, nous attendons de votre part votre collaboration pour que nous puissions donc pouvoir ouvrir une antenne dans la province de Maniema. Et jusqu'ici, d'ailleurs, les contacts se poursuivent. J'ai reçu quelques responsables, comme je disais tout à l'heure, qui sont tout à fait disposés à pouvoir nous aider à trouver une structure d'accueil pour qu'on puisse s'ouvrir une bibliothèque de ce côté-là. Ce que je dis pour Kindou, c'est également valable pour partout là-dedans. En Banzangungu, nous avons une antenne dans le Bas-Congo, Matadi et Boma. Et là, nous sommes en contact avec une école de Banzangungu, l'Institut Kola, qui va accueillir une sous-section de la bibliothèque. C'est ça, une façon pour nous, de l'État, de pouvoir contribuer à la lecture, à promouvoir la lecture en province. Vous avez parfaitement raison. Il faut qu'il y ait beaucoup de bibliothèques. Vous avez parfaitement raison, cher.
Dans toutes les communes.
Oui,
il faut
rapprocher les communes, n'est-ce pas?
De la population.
Parce qu'en fait, vous savez, ailleurs.
Les bibliothèques de la population.
Tout à fait. Vous savez, parce qu'il y a, parfois, il y a le banditisme, n'est-ce pas? Il y a l'oisiveté. L'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. On peut, n'est-ce pas, si on crée, s'il y a des bibliothèques dans des municipalités, parce que quelqu'un qui n'est pas occupé, il cherche à s'occuper autrement, n'est-ce pas? Alors que celui qui est occupé toute la journée, qui a été à l'école, qui revient de l'école, qui va à la bibliothèque, le soir, il n'a pas le temps de s'occuper d'autres choses.
Il n'a pas le temps constituer des bandes dans les rues, en train de parler musique, football et autres.
Etc. Tout à fait, voilà. Donc, il faudrait, ça c'est également une lutte qu'on est en train de mener, pour que dans chaque municipalité...
Qu'il y ait au moins une bibliothèque.
Au moins une bibliothèque, aussi surtout encore un fait important, quand il y a des lotissements quelque part, qu'on puisse prévoir... n'est-ce pas, un endroit où on peut construire, n'est-ce pas, une bibliothèque. Les écoles, on en trouve, c'est un bâtiment pour les bibliothèques. C'est rare que vous trouviez dans une école un local spécifiquement aménagé pour la bibliothèque. Parce qu'on croit que c'est une perte de temps. Alors que si on avait une salle de classe, ça donnerait beaucoup plus d'argent que la bibliothèque.
Voilà. Didier Ibondo nous appelle de Mbujimaï. Justine Mbelou est à Lubumbashi. Didier, bonjour.
Bonjour. Je salue d'abord l'invité.
Merci.
Alors, j'aimerais savoir quelle importance y a-t-il dans la lecture et quels sont les inconvénients.
D'accord, merci. Justine Mbelou, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Jody Kachama. Je salue aussi notre invité et tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, Justine.
Oui, moi, je voulais contribuer un peu à cette émission en disant ceci. Le problème de la lecture, c'est un problème de culture d'abord. Mmh. Et moi, j'estime que ça doit commencer... Bon, la responsabilité est un peu partagée. Il y a l'école, il y a la famille aussi. Parce que nous, à l'époque, on avait des bibliothèques à l'école. On avait toute une heure là, une leçon, bibliothèque, une heure de bibliothèque. Vous allez dans la bibliothèque de l'école, vous prenez un livre, vous lisez, vous allez avec ça à la maison, vous lisez. Et la semaine prochaine, le jour de bibliothèque, à l'heure de bibliothèque, vous faites un petit exposé sur ce que vous avez lu. Mmh. C'est ainsi que nous, on a lu des livres. On a commencé dans la petite enfance par des bandes dessinées. Après, on a lu les livres selon l'âge à l'école primaire, comme les contextes de Ségur. Après, nous sommes allés à l'école secondaire. Il y avait aussi d'autres livres. On est passé par des petits romans policiers. Ainsi de suite, c'était toute une culture à partir de l'école. Mmh. Avec ça, à la maison, par exemple, ici chez moi, il y a toujours des petits livres avec un dictionnaire à côté, comme a dit l'auditeur. Là, quand les enfants lisent un petit mot difficile, ils consultent le dictionnaire.
Alors, Justine,
plus à cause oui. des écrans.
Justine,
les enfants sont à l'écran toute la journée. Vous êtes au service, oui. vous trouvez les enfants toujours à l'écran. Moi, je trouve que c'est une culture qu'on doit commencer à partir de l'école. L'école doit aussi nous aider. Nous, on est aussi occupés. Nous faisons notre part, l'école aussi doit faire sa part avec le système de bibliothèque comme à l'époque.
Alors Justine, dites-nous, est-ce que dans votre famille, chez vos parents, est-ce qu'il y avait, des bouquins, des livres disponibles?
Oui, oui. Mon père, en tout cas, moi, mon papa achetait des livres. Il y avait des bouquins disponibles à la maison. On lisait, il y avait toujours des livres et des dictionnaires.
D'accord. Merci beaucoup pour cette intervention. Floribert Limbi, vous êtes à Ouvira, au sud Kivu. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. J'aimerais juste abonder dans le même sens que mes prédécesseurs. Alors, sur ce sujet, j'aimerais juste ajouter ce qui suit. On a toujours dit que la lecture est la mère de toute connaissance. Alors, quand on fait la lecture... On a toutes les possibilités possibles d'avoir assez de connaissances. Alors, ma question, j'aimerais poser un peu au directeur de la Bibliothèque nationale si on a déjà implanté de bibliothèques succursales dans certaines provinces. Parce qu'ici, à Ouvira, précisément à l'ISDR Ouvira, là, je vous dis, il n'y a qu'une seule bibliothèque interinstitutionnelle. Alors, pour accéder à cette bibliothèque, il faut remplir des formalités jusqu'à tel point où il y a certains de ces étudiants qui manquent même de moyens pour y accéder. Alors, j'aimerais un peu savoir s'il y a déjà un projet qui a
Merci Floribert.
Élaboré.
Merci Floribert. Emmanuel Lonjo, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question rapidement?
La question est celle-ci. Comment est-ce que l'invité peut réaliser dans le périphérie un peu reculé, nous trouvons qu'il n'y a pas de bibliothèque assez et il y a des élèves ou des étudiants qui parcourent de kilomètres pour y arriver. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de remédier et d'ouvrir certaines bibliothèques dans les endroits reculés?
D'accord, merci. Emmanuel Agui, Kachouva, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, ok. Ouais, moi, je salue d'abord l'invité, le journaliste de la radio Capi. Et ensuite, ma question, pas vraiment une question, je fais d'abord une observation. Le déficit de lecture, pour moi, devait être inscrit dans la politique globale du gouvernement, étant donné que ce problème aujourd'hui prend les allures d'un fléau culturel. Et donc les décideurs politiques devraient prendre des stratégies pour encourager la jeunesse particulièrement à s'adonner aux activités de lecture. C'est notamment lorsque on organise des concours d'école, des concours de génération autour de thèmes de lecture, etc. Mais il y a un problème au niveau du gouvernement parce que il me semble que Tout le monde se plaint à constater qu'en Afrique, on ne lit pas.
D'accord, merci.
Cacher une vérité,
merci.
Mettez-les à l'écrit, mais il n'y a aucune politique
culturelle
pour encourager la jeunesse à la lecture. Regardez comment on organise les concours de danse à la télévision avec une société de télécommunication. Si c'était à la place on pouvait organiser les concours de lecture, je pense que la jeunesse aurait pris le courage, l'élan, pour s'adonner à la lecture. Deuxième problème qui se pose, c'est le problème de l'accès. L'accès au support de lecture. Là, je vois les parents. Les parents, pour acheter les ouvrages qui intéressent les différents niveaux de la jeunesse, il faudra que le parent ait le moyen suffisant, en plus des besoins élémentaires de la vie, d'acheter également les ouvrages.
Merci
et
Guy.
Une bibliothèque
Guy, merci beaucoup. Merci.
Donc, vous voyez que ça s'inscrit dans la politique générale du gouvernement, dans la politique de l'État. Malheureusement, sur ces points.
Merci Guy. Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à l'invité.
On vous écoute, Omar.
Oui, rapidement, je pose ma première question.
Oui.
Est-ce que le manque de moyens peut aussi être à la base de ces dysfonctionnements de lecture en RDC? Parce que nul ne peut ignorer que les livres coûtent très cher et les prix pour accéder aux bibliothèques sont aussi très chers. Ça ne s'adapte pas aux réalités sociales des Congolais. Deuxième question. Moi, je pense que la mise en place des bibliothèques ne suffit pas, puisque le problème de lecture est un problème culturel dont les Congolais n'aiment pas lire. Alors, quels sont les mécanismes que le professeur peut proposer pour inciter les Congolais à la lecture? Parce que c'est un problème de conscience personnelle. Troisième question pour finir. Certains observateurs pensent que les limitations scientifiques qui poussent les Congolais à ne plus lire, c'est-à-dire nos professeurs, nos chercheurs n'innovent pas, ils ne font que du copier-coller et ça décourage les lecteurs. Est-ce que cet aspect des choses peut aussi être à la base? Vous verrez des professeurs qui sont là 10 ans mais ils n'inventent rien. On lit un livre français, on voit le même chose dans les livres congolais. Est-ce que ça peut être la base du découragement de la lecture dans les livres congolais? Voilà mes préoccupations aujourd'hui, je vous remercie.
Bien, merci. Professeur, vous avez suivi tous ces auditeurs. Vous avez la parole.
Merci. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'observations. Il y a Didier qui pouvait parler davantage de la lecture des inconvénients. Je pense qu'il y a plus avantages
que d'inconvénients.
Ça, c'est évident. Celui qui lit, il se développe, il découvre beaucoup de choses. Je disais tout à l'heure, on pouvait trouver un nouveau mot, essayer de demander des expressions à gauche à droite.
Il voit aussi l'orthographe.
L'orthographe, juste
les expressions françaises.
Seulement, c'est un fléau, n'est-ce pas? On massacre la langue.
On a appris même qu'en Bougemain, il y a des députés qui ne savent pas écrire.
Oui, ça, on a appris.
ça, c'est extrêmement grave, professeur.
Ça, c'est gravissime. Et il y a la dame qui a fait une bonne contribution. Je crois qu'il doit avoir étudié comme moi avant l'indépendance. Madame Justine, effectivement, nous, de notre temps, la lecture faisait partie du programme. Dans chaque classe, il y avait une armoire au fond de la classe où il y avait des livres. Et puis, il faut me dire que nous, on était des petits savants. On n'amenait jamais des livres à la maison, mais toutes les leçons étaient assimilées au sortir de l'école. Ça, c'est une parenthèse directement que je referme.
Donc, on poussait les enfants à faire des exposés après lu un livre.
On poussait les enfants à lire, à exposer, on posait des questions. Il y avait des leçons de déclamation, et on récitait des fables de La Fontaine, et les gens s'exerçaient à l'éloquence, etc. Aujourd'hui, c'est grave. Mais dans le programme, il est prévu, comme, parce que nous avons eu à organiser un séminaire avec les PSP au mois de juin l'année dernière, sur ce problème justement, problème qui tient beaucoup à cœur le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, etc., que les recommandations ont été faites pour qu'en fait, avant de pouvoir agréer une école, qu'il y ait absolument une bibliothèque. Et quand il y a des bibliothèques, qu'il y ait des livres. Et quand il y a des livres, qu'on incite les jeunes gens à les lire.
Voilà.
Un lecteur a parlé également du rôle qui revient aux parents. Effectivement, les parents doivent conduire les enfants, faire la lecture, faire le savoir, etc. Je me souviens, n'est-ce pas, de mon enseignant de première année primaire qui me disait que l'école, je le disais en Tchouba, je vais le dire en Tchouba, je vais traduire.
Oui, allez-y, bien sûr.
Il disait, je le cite, Kalasa Mwaba Mwakane Wilaila Bantu Kumpala. Que l'école, c'est un bon endroit qui permet aux gens d'aller de l'avant. Donc, quand on étudie, on peut progresser, on peut se développer, etc.
D'accord. Floribert, depuis Ouvira, nous dit qu'à l'ISDR, Ouvira, il y a beaucoup de formalités. L'accès aux ouvrages est très, très compliqué, très difficile.
Oui, je regroupe un peu parce que
les gens les regroupent, bien sûr.
Tout à fait. Là, on m'a parlé de projets d'implantation dans les coins reculés.
Voilà.
C'est ce que je disais, peut-être que l'auditeur ne m'a pas suivi. Je dis que nous avons un projet d'implantation. Donc, l'arrêté est signé pour plus de 33 bibliothèques succursales. À la Bibliothèque nationale. Mais il faudrait maintenant matérialiser, concrétiser tous ces projets. Ça veut dire que dit cela parle de moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir implanter. Quand on a implanté, ben là, il faut équiper, et quand on a équipé, on peut amener les enfants à la lecture.
Oui.
Le support, effectivement, le livre coûte cher, ça il faut aussi le dire. Le livre coûte cher, le pouvoir d'achat, n'est-ce pas, c'est un problème économique. Voilà la raison pour laquelle, au lieu que chacun puisse acheter des livres, n'est-ce pas, c'est pour ça que l'État...
Peut-être le gouvernement peut faire des exonérations à ceux qui amènent des livres.
Tout à fait, la politique culturelle, pour que les intrants en rapport avec les livres, n'est-ce pas, puissent être exonérés. Et ça faciliterait, n'est-ce pas, les choses. Vous savez que, quand on regardait, jetez un coup d'œil sur la ville de Kinshasa, combien de librairies y a-t-il sur la ville de Kinshasa? Je ne sais pas, de la ville de la Gombe, là. Comptez sur le bout des doigts. Il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup.
Alors, parce que les gens croient que... Parce que un commerçant, un libraire, c'est un commerçant. N'est-ce pas?
Oui.
Et donc, ce qui l'intéresse, il faut qu'il ait l'argent. Mais s'il ne peut pas retirer, s'il ne peut pas voir... tirer profit de sa marchandise, parce que le livre c'est une marchandise.
Mmh.
Je vois sur le boulevard, il y a la librairie de les livres dans le Grand Lac.
Le Grand Lac, oui, bien sûr, sur le boulevard du 30 juin.
Le boulevard du 30 juin, n'est-ce pas? Et puis, après, nous avons nos librairies, n'est-ce pas, dans confessionnelles, chez les catholiques, chez les protestants.
Il semble que chez vous, à la Bibliothèque nationale, il n'y a plus rien. C'est des vieux livres qui datent des années, et puis vous ne renouvelez pas les stocks.
C'est une affirmation gratuite.
Professeur, je reviens dans quelques instants, le temps d'accueillir trois auditeurs.
Il faut que je réponde, non?
Oui, bien sûr, vous allez répondre. On va accueillir trois auditeurs qui sont en ligne.
Parfait.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Comment encourager les jeunes à fréquenter les bibliothèques? Ezekiel, vous êtes à Réti, en Ituri, province orientale. Bonjour. Ezekiel, bonjour, quelle est votre question rapidement?
Ici, à Réti, on n'a pas encore forcé les étudiants à arriver à la bibliothèque, ils n'arrivent pas. Et lorsqu'ils vont arriver le jour de la de TFC, par exemple, ou de mémoire, ils retirent les livres pour ne pas les remettre. Alors qu'ici, à Réti, il y a même la librairie des éditions Secavette. Aller acheter les livres là-bas, il ne le faut pas. Alors, j'aimerais poser à l'invité de donner les règles, quelques règles à suivre à la bibliothèque, c'est ça ma question. Et je salue le chef de travaux, Manzeto Mwanza Gabriel Alipen.
Esther, vous êtes à Magui, bonjour. Esther, vous êtes à Magui, bonjour.
Oui, bonjour, Jody.
On vous écoute.
Oui, je suis sur la même ligne que les autres. Vous savez, en général, la lecture n'est pas quelque chose d'habitude des cultures dans l'esprit des Congolais. S'il faut lire, on lit juste pour un devoir, pour un tête et donc pour un objectif bien déterminé.
Oui.
Et non dans le but de s'informer, de se cultiver davantage ou sur des choses qu'on ne connaît pas. On voit que c'est du gaspillage du temps ou c'est une affaire des autres, alors que non. En lisant, on a plus à gagner qu'à perdre.
D'accord, passez à la question rapidement.
D'autre part, je dis oui. Vous l'aviez bien formulé d'ailleurs. Vous dites comment arriver à encourager les jeunes comme les adultes pour fréquenter les bibliothèques. Mais je dis déjà, les jeunes n'ont pas ce courage de lire. En plus de ça, pour avoir accès à la bibliothèque, il faut obligatoirement qu'on paye. Il y a des conditions pour la lecture. Devant cette situation, par exemple, un élève ou un étudiant qui a d'abord difficulté à payer ses frais scolaires ou académique, comment voulez-vous qu'il paye en annexe les frais des bibliothèques? C'est un peu difficile, je pense. Alors, comme solution, je pense qu'il faut quand même essayer d'alléger la tâche pour les jeunes comme les adultes pour la lecture.
D'accord.
Et la lecture soit au moins gratuite, ou du moins que le coût de la lecture soit vraiment minimisé.
Merci. Merci Esther. Adrienne, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour aussi à Monsieur le Professeur Georges Moulumba.
Merci.
Moi j'ai juste une question et j'aimerais tirer ma question dans ce qui avait dit un roi, si je ne m'abuse pas, c'était un roi Salomon, qui avait dit à part beaucoup de livres, il n'y a pas d'effort. Et les fréquenter beaucoup est fatigant pour la chair. Et là, je sais très bien que Salomon n'essayait pas de décourager la lecture. Il nous conseillait seulement d'être sélectif. Alors, selon vous, professeur Georges, combien de fois devons-nous fréquenter une bibliothèque par semaine? Merci, monsieur Jody.
D'accord. Professeur, vous avez la parole.
Je commence par la dernière intervenante, Adrienne, qui demande combien de fois... autant de fois que vous pouvez, cher ami. Autant, plus vous fréquentez la bibliothèque, plus vous vous formez, plus vous avez de plus en plus de connaissances. Mm-hmm. Donc, le plus possible. Et il y a, je crois, un auditeur qui parlait de l'accès, le frais qu'on paye pour accéder à la bibliothèque. En fait, ce que l'on paye pour accéder à la bibliothèque, c'est insignifiant. Moi, ce que je propose, c'est ceci. Dans les frais de scolarité, c'est-à-dire les minervales, ce qu'on appelle vulgairement minervales, enfin, il est prévu les frais qu'on prévoit, les frais d'accès à la bibliothèque. Ailleurs, c'est ce qui se fait. En France, le pays que je connais le mieux, dans les frais que l'étudiant paye pour la scolarité, pour l'année académique, là-dedans, c'est compris, il y a un petit montant qui est prévu pour la bibliothèque, pour l'accès à la bibliothèque, etc. C'est tout à fait quelque chose de symbolique. Donc, ce n'est pas prohibitif. Bien sûr, je suis d'accord avec l'auditrice, c'est que l'autre pouvoir d'achat, c'est ça. Le problème, c'est tout celui-là.
Le pouvoir d'achat.
Le pouvoir d'achat est très, très faible. Quelqu'un considère que payer 300 $ par an pour le fait de scolarité, c'est beaucoup. Mais regardez ce qu'on paye dans le privé pour nos enfants, primaire et secondaire. C'est par rapport à ce que on demande à un enseignement supérieur, ce n'est pas beaucoup du tout. Mmh. Alors un autre éditeur qu'il faut forcer les étudiants pour aller à la bibliothèque. Il parle de l'étudiant de l'enseignement universitaire, mais en fait logiquement je crois qu'il est prévu au début de chaque année académique une journée d'orientation pour les nouveaux étudiants qui arrivent. En quoi ça consiste? De faire visiter, n'est-ce pas, le site universitaire, les services de l'université pour que le nouveau arrivant puisse se familiariser avec le milieu, notamment la bibliothèque. On les amène à la bibliothèque, on leur explique comment accéder à un livre. Parce que vous savez, quand quelqu'un arrive dans une bibliothèque, parfois il y en a qui ont peur de pouvoir demander un livre. Hein. Parce qu'on leur dit, regardez au fichier, consultez le fichier, et puis prenez notre...
Ils ont peur.
Ils ont peur.
Pourquoi?
Parce qu'ils ne sont pas initiés. Ils ne sont pas initiés, il y a le plan, il y a tout un jargon bibliothéconomique, bien entendu. Parfois, on met le plan de classement de la bibliothèque, comment retrouver le livre sur les rayons, ce n'est pas évident du tout. Donc il faut une initiation. Quand ils arrivent au début de l'année, on peut les amener à la bibliothèque, et les bibliothécaires, à ce moment-là, expliquent aux étudiants comment pouvoir trouver un livre. Et ceux qui prennent le livre sans pouvoir le remettre, évidemment, il y a des pénalités qui sont prévues. La durée logique pour le prêt d'un livre, c'est 2 semaines. Mais si vous avez besoin de ces livres pour continuer, n'est-ce pas, vos recherches, vous rentrez à la bibliothèque pour renouveler votre prêt.
Mais dans les bibliothèques, il y a certains abonnés qui viennent volent les livres.
Ah non, mais justement, il faut prendre
des inciviques.
Les inciviques, bien entendu, qui viennent. Alors, j'adore revenir, je ne peux pas laisser passer cette occasion. Quand vous avez dit qu'on dit qu'à la Bibliothèque nationale, il n'y a que des vieux livres, c'est faux.
Des vieux livres qui datent de l'époque coloniale.
Mais bien entendu, nous avons les livres qui font la fierté de l'époque coloniale. Mais il y a de nouveaux livres, parce qu'en vertu du dépôt légal, c'est-à-dire la loi qui oblige tout celui qui est une œuvre d'esprit, de pouvoir le déposer à la Bibliothèque nationale. Donc, il y a des livres nouveaux, il y a des livres anciens aussi. En ce qui concerne le nouveau, effectivement, il y a également de lecteurs, ou de quelqu'un qui écrit, qui disent, mais voilà, écoutez, réglementairement, il faut déposer 8 exemplaires. À la Bibliothèque nationale. C'est la loi qui dit ça, ce n'est pas moi. Et ces 8 exemplaires.
Donc chaque auteur qui publie doit amener un exemplaire à la Bibliothèque nationale.
8
exemplaires.
Réglementaires. Oui. Et parmi les 8, il y en a 2 que l'on envoie à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Les 6 autres restent à la Bibliothèque nationale. Je vous ai parlé tout à l'heure des antennes que nous avons en province, n'est-ce pas, que nous devons également approvisionner pour dire que le nombre de livres que l'on demande pour déposer, c'est insuffisant par rapport aux besoins. Mais je reviens sur le rôle capital qui revient à l'État, qui revient aux parents, qui revient à l'école, de pouvoir inciter les enfants à la lecture.
Tout commence par, d'abord par la famille.
Tout commence par la famille, bien entendu. C'est la base.
La base.
Quelqu'un qui ne sait pas gouverner sa famille ne pourra pas gouverner.
Et puis c'est au niveau de l'école. L'école doit les exposer, encourager les enfants à lire.
L'école, les parents, n'est-ce pas? Les enseignants remplacent les parents.
D'accord.
L'école constitue le relais, n'est-ce pas? Ben, les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Pendant la journée, je veux dire. Et donc, les éducateurs doivent les prendre en charge.
Et puis, il y a aussi le pouvoir public qui doit accorder des exonérations, par exemple, à ceux-là qui importent les livres.
En fait,
il faut aussi légiférer. Est-ce que la loi, est-ce qu'on a légiféré par rapport à ces...
Tout à fait. Il y a le plan, la politique culturelle, justement, tout ce que vous dites là, est prévu dans cette loi pour qu'on puisse exonérer, justement, les produits culturels. Comme ça, ça permet... Parce que les gens sont handicapés. Ils disent, mais voilà, on nous demande trop. La douane, ça demande trop. Si on parvient à avoir l'exonération, bien, je crois que ça peut faciliter beaucoup de choses. Que également, je reviens sur ce que je dis tout à l'heure, n'est-ce pas? L'implantation, quand il y a... comment dirais-je? Quand il y a un lotissement quelque part, qu'on
prévoit,
deux coins pour les enfants, deux coins pour la lecture. Vous savez
dans
que...
Dans les municipalités, il faut...
Oui, dans les municipalités, effectivement. Regardez un peu dans les municipalités. Combien de municipalités ont des bibliothèques? Combien? Presque pas.
Oui, presque pas.
Presque pas. Alors, heureusement que nous avons des missionnaires, n'est-ce pas, qui ont quelques bibliothèques, n'est-ce pas, et ça, et
même
quelques écoles.
J'ai suivi même un auditeur qui dit à tous ces opérateurs, ces entreprises du secteur de la téléphonie qui organisent, par exemple, des manifestations, des concours pour les jeunes gens pour chanter, danser.
Et là, vous
pouvez organiser des concours comme ça pour la lecture.
Mais justement, le 23 avril de chaque année, c'est la journée mondiale du livre des droits d'auteur. Depuis 3-4 ans, nous organisons des concours à l'intention des élèves de 5e primaire, parce que ceux de 6e à ce moment-là, ils sont aux examens d'État. Nous organisons la dictée, nous avons la culture générale, et nous primons ces jeunes gens-là. Mais il faut voir qu'est-ce qu'on découvre. Il y a des enfants qui ne savent pas des choses, que ce soit des choses les plus élémentaires. Vous voulez demander qui est le ministre de l'enseignement primaire, le secondaire, etc. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, nous organisons des concours de cette façon-là. Il y a une dizaine d'années, nous avions organisé une journée dans la commune de Calamon. Eh bien, nous avons regroupé des écoles environnantes. On a organisé des conférences.
Et vous avez organisé que les enfants ont beaucoup de lacunes.
Oui.
Beaucoup d'insuffisances.
Et on a, à la fin, nous avions donné des livres qui devaient servir comme fond de démarrage à chaque école.
D'accord. Professeur Moulumba, on s'arrête là. On s'arrête par ici pour aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Bibliothèque nationale. On aura l'occasion de parler de nouveau de ces sujets prochainement. Merci et
j'espère
à la prochaine.
Merci beaucoup et tout le plaisir a été pour moi. Je remercie encore la Radio de la Paix pour cette opportunité que m'a été offerte. Bonjour.
À la prochaine.
Au revoir. À la prochaine.